Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nouveau compte rendu de mandat radiophonique avec Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de cette plénière des 11 et 12 octobre dernier. Et beaucoup de sujets aujourd'hui. Peut-être pour commencer, l'ambiance, ça va mieux ?
Eh bien oui, je dois dire qu'en ce moment, on est sur une ambiance plutôt constructive, on va dire, où visiblement Laurent Wauquiez cherche à se donner probablement une image un petit peu plus fédératrice. Il faut dire qu'après
avoir... Avant, il était en campagne, quoi.
Après avoir énormément entendu les choses, y compris dans ce qui est sorti dans la presse nationale, les petites phrases, les polémiques, etc. Visiblement, là, il cherche à réamadouer un peu tout le monde et à tendre davantage la main à l'opposition. En tout cas, toujours est-il que sur cette session, un certain nombre de nos amendements ou de nos vœux ont été adoptés, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc c'est bien, ça va dans le bon sens, puisqu'on peut, même si c'est à la marge, faire évoluer un petit peu un certain nombre de politiques, ou au moins avoir l'impression de tirer dans le même sens quand c'est dans l'intérêt de la région et de ses habitants.
Et sur le rythme, qui était comme ça un peu rapide, la documentation très tardivement, ça a changé ?
En fait, là, on est dans les délais légaux pour nous transmettre les documents. Après, ça continue à être assez rapide. Et c'est vrai que, par exemple, là, on a eu toute une discussion sur les aspects budgétaires qui a été un peu rapide. On a toujours un temps de parole qui est limité, selon les cas, à 2 ou 3 minutes. Donc, c'est évidemment très peu. Et souvent, on n'a pas la possibilité de rebondir après la réponse de l'exécutif. Donc, en termes de débat, on ne peut pas dire qu'on soit un niveau démocratique de débat ultra satisfaisant, mais on arrive quand même à avoir des échanges sur certaines questions.
Un premier point, l'étoile de Veynes, notre poumon ferroviaire à nous, ici, d'Iwa en plus. Hein.
Oui, alors justement,
ça va jusqu'à la région Rhône-Alpes. Wow.
Tout à fait, c'est un des points justement sur lequel on a réussi à avoir des échanges, des informations et sur lequel nous avons obtenu une petite victoire, puisque j'ai présenté un vœu sur ce combat que mène le collectif de l'étoile de Veynes. Donc pour rappel, ce sont les 4 branches qui vont de Valence à Gap et puis de Grenoble vers Marseille et qui se croisent à Veynes et qui donc permettent à la fois de franchir les Alpes et puis de faire de l'interconnexion entre les différentes régions. Et sur cette étoile de Veynes, il reste une portion, une ligne qui est aujourd'hui menacée de fermeture. C'est la fameuse ligne des Alpes, une ligne historique qui va de Grenoble à Gap et qui aujourd'hui est toujours en sursis et en risque de fermeture. Alors sur cette ligne, il y a eu une mobilisation des habitants, des usagers, des élus locaux très importante qui commence à porter ses fruits puisque le tour de table du financement des travaux à réaliser sur la ligne pour qu'elle puisse continuer à fonctionner commence à être bouclé. Le problème qu'on a majeur aujourd'hui, c'est que l'État qui a enfin accepté de s'engager sur le financement, sur sa part de ces travaux qui serait aux alentours de 40% en fait, du coût des travaux, s'engage à financer, mais seulement dans le prochain contrat de plan État-région, c'est-à-dire en 2021. Le problème, c'est que la SNCF nous indique que pour des raisons de sécurité, si les travaux ne sont pas faits d'ici là, la ligne pourrait être suspendue avant ça, et probablement dès 2020. Donc ce qui veut dire qu'en gros, l'État s'engage à financer une fois qu'il n'y a plus de ligne, quoi.
Pardon, mais un chantier comme celui-là va forcément fermer la ligne pendant un certain temps. On pourrait déjà lancer les 60%.
Oui, sauf que ça marche pas malheureusement, c'est-à-dire que en fait tant que le tour de table n'est pas bouclé et que chacun n'a pas mis la main au pot, personne ne débloque l'argent. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui la région dit bah nous si l'État s'engage pas très clairement sur le financement et ne verse pas l'argent à et tant qu'il ne l'a pas fait, nous on s'engage pas non plus quoi. Donc on finance seulement si l'État finance. Et c'est pareil pour l'ensemble des collectivités. Donc pour l'instant, on est un peu suspendu à ce problème de calendrier, avec une crainte qui est que du coup la région joue là-dessus, en disant « bah écoutez, vous voyez bien, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du gouvernement. Nous, on était prêts à mettre de l'argent, mais finalement, au final, le résultat serait le même, c'est-à-dire que concrètement, la ligne serait fermée. » Donc il y avait un enjeu important à redemander à l'État de s'engager dès maintenant sur ce financement et puis par la même occasion, parce que deux sécurités valent mieux qu'une, de réaffirmer l'engagement aussi de la région dès maintenant. Donc on a fait un vœu dans ce sens qui a été adopté par l'ensemble des élus régionaux et qui donc réaffirme bien l'engagement de la région dès maintenant pour ce financement et s'adresse à l'État pour lui demander d'accélérer les choses et lui dire qu'il n'est pas possible d'attendre le prochain contrat de plan État-région pour faire ses travaux. En plus, ça nous concerne nous directement à dit d'une certaine manière puisque le maintien de cette ligne permettrait au moment des travaux qu'il va y avoir entre Valence et Gap fin 2019, et bien de continuer à faire circuler le train de nuit Paris-Briançon en le faisant passer justement par Grenoble. Donc nous, ça nous assurerait aussi une continuité sur le Paris-Briançon, sur un des derniers trains de nuit que nous avons en France. Donc voilà, c'est aussi une manière de montrer que sur cette étoile de Veynes, l'ensemble des lignes en fait, sont solidaires et que amputer l'étoile d'une de ces lignes, c'est faire du mal à l'ensemble de cette étoile de Veynes.
En plus de mettre la ville dans une situation particulière, puisqu'elle tourne principalement autour de cette étoile ferroviaire, justement.
Tout à fait.
Qui est le maître d'œuvre sur ce chantier de réfection de cette ligne des Alpes ?
Les travaux seront réalisés par la SNCF.
Ouais. Avec le commanditaire, il n'y a pas quelqu'un qui est majoritaire, j'allais dire, dans le pourcentage, par exemple la région en l'occurrence, et qui, en fait, qui va aller demander à l'État là, de s'engager ?
Parce
que le vœu, bon, d'accord, mais donc.
Il n'y a pas une autorité particulière d'une collectivité ou de l'opérateur pour aller demander à l'État. En fait, l'État choisit d'investir ou non ici ou ailleurs. Et donc, en gros, effectivement, si on n'a pas cet engagement du gouvernement et si clairement on n'a pas des sous sur la table, il ne se passera rien, quoi.
Il n'y aura pas une signature, un truc qui vraiment dit que c'est bon. Il n'y a pas de certitude.
On espère bien qu'au final, il va y avoir un document, effectivement, entre toutes les parties engagées, mais en fait, il y a plein d'acteurs sur une ligne ferroviaire. Il y a la SNCF, il y a la région en tant qu'autorité organisatrice des TER, des transports régionaux, il y a l'État, il y a aussi la métropole de Grenoble, il y a le département, enfin, il y a plein d'acteurs différents, en fait. Et là, en plus, il y a une autre région qui est la région PACA. Donc, effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut réussir à mettre tout ce petit monde-là d'accord et que c'est pas dénué d'intérêts politiciens et que tout le monde, en gros, préfère voir rejeter la faute de l'échec sur l'autre. Et surtout, tant que tout le monde n'est pas d'accord, personne ne bouge, quoi. Et là, pour l'instant, il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment sur les montants des financements des uns et des autres. Là, le seul truc qui reste, c'est effectivement la date, le calendrier. Et là-dessus, aujourd'hui, la balle est vraiment dans le camp du gouvernement et c'est la raison pour laquelle il faut voilà, faire pression et le demander. Et donc, c'est la mobilisation des usagers, des cheminots, mais aussi des collectivités. Et c'est pour ça que le fait que voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même la deuxième région de France et qui est partie prenante dans ce dossier, qu'elle se positionne de cette manière-là, est quand même un signal fort envoyé et un atout pour débloquer le dossier, quoi.
Il y avait le collectif Garanou qui faisait un rassemblement,
oui,
autour aussi de cette fameuse ligne Roman Gap.
Oui, tout à fait. Alors c'était marrant parce que en fait le collectif Garanou a réuni les habitants du Diwa qui sont inquiets sur la suppression de ce TER entre Roman et Gap. À peu près pile au moment où moi j'étais en train de défendre le vœu sur l'étoile de Veynes à la région. Donc il y avait quasiment un duplex entre Lyon et Die sur cette question. Et pour ce que j'ai vu, ce qui a circulé en termes de photos, d'affluence et ce qu'on m'en a raconté, visiblement c'était une réussite. Il y avait pas mal de Diwas et de Diwas au rendez-vous, et notamment du côté des jeunes du lycée, des internes qui font partie des usagers de ce TER, parce que tout simplement ils en ont besoin pour rentrer chez eux le vendredi soir, pour ceux qui habitent dans les Hautes-Alpes. Et c'est un très bon exemple de l'utilité totale de ce TER, qui est quand même un des trains sur la ligne qui est le plus rempli, puisque c'est celui qui permet aux gens de rentrer du boulot, aux internes de rentrer chez eux le week-end.
C'est même le seul qui nous connecte à la fameuse gare TGV de Valence, en fait.
Ouais, donc voilà, pour l'instant, là-dessus, c'est pareil, il y a beaucoup de courriers échangés. Moi, j'ai écrit à la fois à la vice-présidente en charge des transports à la région, mais aussi aux deux élus LR qui siègent aujourd'hui au conseil d'administration du lycée du Diwa, pour alerter un peu tout le monde sur cette question-là. Pour l'instant, les retours qu'on a, c'est que la suspension du TER, du train, semble maintenue. Il serait remplacé par un car. Et du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y aurait la volonté de resubstituer un train à ce car, c'est-à-dire de revenir à un moment donné à un train. Donc pour l'instant, le plus probable, c'est qu'il y ait une période où ce sera un car qui circule. Là, l'objectif, c'est évidemment de poursuivre la mobilisation pour qu'il n'y ait pas de rupture de service et qu'on reste sur un train, ne serait-ce que parce que on sait que l'écart en hiver sur cette portion, il circule difficilement, et que pour peu qu'on ait un hiver un peu rigoureux avec de la neige et du gel, évidemment, c'est pas la même chose de circuler sur la route ou de circuler sur les rails.
Non, mais il n'y a pas du tout le même nombre de personnes, même d'ailleurs ce train est quand même particulièrement rempli. C'est là que c'est assez étonnant. Il fait partie des trains qui sont, j'allais dire, est-ce qu'un train doit être rentable, mais en tout cas qui est rempli, oui.
Oui, tout à fait, mais c'est ça qui paraît totalement fou.
C'est-à-dire que deux ou trois quarts pour remplacer, quoi.
On a déjà le sentiment que tout est fait pour vider le train et décourager les gens de le prendre. Et là, celui-là qui est le plus fréquenté, le plus utilisé, le plus indispensable, c'est celui-là qu'on supprime. C'est une décision totalement absurde, et c'est la raison pour laquelle aussi, on a plutôt bon espoir d'obtenir gain de cause, parce que là, pour le coup, il n'y a juste aucun argument, même d'un point de vue purement cynique, qui tienne la route, quoi. Donc, il faut rester mobilisé et on espère bien avoir gain de cause et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de service et qu'on conserve un train sur ce TER de bout en bout, quoi.
On passe à un autre sujet d'actualité, celui-ci qui transperce, j'allais dire, même la sphère médiatique nationale. Hein. C'est le cas de ces enfants qui naissent mal formés, dans l'Ain notamment. Et on avait commencé à en parler autour du RMRA. Hein.
Oui.
Ça avance.
Alors, c'est un dossier compliqué. Donc, le RMRA, c'est le registre des malformations en Rhône-Alpes.
Qui a été supprimé, sa subvention.
Voilà, c'est un registre indépendant des firmes pharmaceutiques et des lobbies industriels qui fonctionnait jusqu'ici sur des subventions publiques, notamment de la part de l'INSERM et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il se trouve que la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'INSERM, ont décidé d'arrêter de le subventionner. En termes de sommes, ce n'est pas des sommes extravagantes, hein, puisque pour la région, c'est 100 000 euros. c'est-à-dire deux fois moins que ce qui a été donné à la dernière commission permanente pour organiser un congrès d'experts comptables. Donc c'est de l'argent qui pourrait être débloqué. Il y a donc une décision politique de cesser cette subvention, qui est d'autant plus surprenante qu'elle intervient au moment où justement le REMERA lance l'alerte effectivement sur plusieurs cas de bébés qui sont nés sans main ou sans bras dans un petit village de l'Ain. En l'espace de quelques années, donc avec une concentration de cas de malformations qui évidemment interpellent et qui appellent des enquêtes qui doivent déterminer la cause. Il y a aussi eu des cas similaires en Bretagne et en Loire-Atlantique. Pour l'instant, en l'absence d'enquête, le seul dénominateur commun de tous ces lieux et de tous ces cas, c'est que ce sont des régions rurales agricoles avec des champs de monoculture intensive, notamment céréalière, et donc avec une suspicion qui aujourd'hui n'est pas avérée, mais une suspicion par rapport à la question des pesticides. Et donc,
oui,
évidemment,
parce que le REMERA ne va faire qu'un recoupement statistique de constats.
C'est ça. En fait, le REMERA surveille, effectue un suivi. C'est une base de données de 85 000 cas recensement. Il répertorie et quand il voit des choses suspectes, il lance l'alerte. Ce n'est pas lui qui mène l'enquête, mais il lance l'alerte. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la fermeture d'un lanceur d'alerte et à un classement sans suite de ces cas. Puisque aujourd'hui, l'Agence nationale de santé dit que c'est en dessous des seuils statistiques permettant justement de lancer l'alerte et que donc, en gros, il n'y aura pas de suivi. Donc, tout ça est évidemment extrêmement inquiétant, ce qui explique aussi que les médias nationaux s'en soient emparés. Évidemment, tout le monde est légitimement ému et inquiet et souhaite avoir le cœur net sur les causes de ces malformations. Et donc, là aussi, il y a toute une mobilisation et tout un combat qui est en train de se mener, à la fois pour rétablir les subventions à ce registre, pour qu'il puisse continuer à exercer cette veille et à alerter quand il y a des cas de malformation. Donc, par rapport à ça, on a déposé avec le Parti radical de gauche un amendement budgétaire demandant à réintégrer cette subvention de 100 000 euros qui a été repoussée. On n'a eu que 53 voix pour contre 125 contre, ce qui est quand même assez hallucinant de la part d'élus régionaux qui sont censés quand même se préoccuper un peu de la santé des habitants de la région. Et j'ai remis une louche en posant une question orale. Donc c'est une question qui est donc publique, qui est posée en session et donc à laquelle Laurent Wauquiez était tenu de répondre. Et là, on a eu une petite ouverture, puisque Laurent Wauquiez, dans sa réponse à ma question orale, a d'abord confirmé que ces cas étaient alarmants et qu'il y avait effectivement une alerte de lancer, tout en disant que pour lui, la responsabilité incombait désormais au gouvernement et au ministère de la Santé et que donc il allait entamer des discussions, un rapprochement avec le REMERA, avec le ministère de la Santé et laissant la porte ouverte. Si le gouvernement n'assumait pas ses missions, que la région puisse s'y substituer. Donc, une petite porte a été ouverte sur la possibilité de continuer peut-être à financer le REMERA et à l'accompagner dans cette mission d'intérêt général. En même temps, en parallèle, nous sommes alertés par le REMERA sur le fait que dès cette semaine, il est convoqué par les CHU de Lyon dont il dépend pour des entretiens de licenciement. Et donc de fermeture du registre. Donc pour l'instant, on en est là avec une inquiétude très forte parce que c'est pas comme si on n'avait pas déjà eu le scandale de l'amiante, le scandale des Monsanto Papers, le scandale de la Dépakine et donc une suspicion qui est quand même maintenant étayée sur toutes ces situations où tout d'un coup quelqu'un lance l'alerte. Se voit très rapidement condamné au silence d'une manière ou d'une autre. Sauf que jusqu'ici, ces pressions s'exerçaient de la part des lobbies industriels, pharmaceutiques, semenciers, etc. Là, ce qui est très inquiétant...
Il y en a peut-être un quand même, là.
Là, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on parle de collectivités publiques, de l'INSERM, d'autorités gouvernementales en charge de la santé publique, qui semblent se prêter à ce jeu-là. Et c'est évidemment un pas supplémentaire d'inquiétude et honnêtement, de défiance, quoi, de plus en plus.
Mais dans les suspicions que vous avez peut-être même déjà à peine abordé, hein, cette question, en tout cas, de l'agriculture intensive pose des problèmes à plein de niveaux. On commence à relever, en tout cas noter dans les études, notamment des agences de l'eau, la présence ou non de tel ou tel type de pesticides dans l'eau potable, hein, des relevés que tout le monde peut avoir. Ça commence à devenir quelque chose de connu. Ces villages-là, là, en l'occurrence dans l'Ain, ils connaissent de cette activité, l'activité qu'ils ont et qui les fait vivre sans doute. Est-ce qu'ils se posent cette question-là, eux aussi, dans ce sens-là? Est-ce que leur environnement, en fait, pourrait être, même selon eux, la source du problème?
Moi, je ne peux pas parler à la place,
des habitants. Pardon, je termine, mais il y a quand même du coup un lobby, forcément, qui est derrière.
Moi, je ne peux pas parler à la place des habitants, mais il y a eu quelques reportages qui interrogeaient certains des habitants et qui faisaient état, effectivement, de ces inquiétudes. Mais ces inquiétudes-là, elles sont régulièrement relayées. Et souvent, je dois le dire, par les agriculteurs eux-mêmes, dont il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent les premières victimes de ces produits chimiques qu'ils ont été incités à utiliser. Et on a de plus en plus d'agriculteurs qui développent des maladies qui sont finalement des maladies du travail, des maladies professionnelles, notamment des cancers, en lien et dont le lien a été prouvé avec l'utilisation d'un certain nombre de produits. Hein. Il y a eu une condamnation pour un produit qui n'est plus aujourd'hui en vente, mais qui l'a été pendant très longtemps, qui est aussi un produit de Monsanto qui s'appelle le Lasso. Et Monsanto a été condamné par rapport à la plainte d'un agriculteur au tribunal de Lyon. Il y a eu le cas de ce jardinier américain qui a obtenu aussi une condamnation de Monsanto parce que là aussi il avait développé plusieurs maladies, dont un cancer mortel. Donc il y a de plus en plus de cas, mais c'est vrai qu'on l'a vu avec la question du glyphosate. Il y a une telle énergie et de telles sommes d'argent déployées par les lobbies pour justement camoufler les effets nocifs. Le cas des Monsanto Papers était très éclairant à ce sujet-là, hein, puisque on a des rapports produits par des services de Monsanto qui ont été signés, falsifiés et signés par des scientifiques, des prête-noms. Qui portent d'ailleurs une responsabilité énorme, hein, de prêter leur légitimité scientifique à la falsification de ces rapports. Et des pages entières de ces rapports falsifiés ont été copiées, collées et reprises dans des rapports de la Commission européenne. Donc on est là face à vraiment des manipulations mensongères à très grande échelle.
Et un lobby très puissant.
Et c'est vrai que du coup, ce cas du Remera, qui est un registre indépendant, je le redis, parce que du coup ça a son importance dans ce contexte, il est éminemment symbolique aussi. C'est vraiment pour moi... Un combat important, à la fois pour connaître la vérité sur ces malformations avérées dans l'Ain et ailleurs en France, et puis aussi pour montrer que justement on ne baisse pas les bras face au lobby et qu'on a le droit à savoir la vérité pour nous et pour plus tard. On sait que ces pesticides restent 50 ans au minimum dans le sol et on ne peut pas accepter de ne pas en avoir le cœur net et donc de prendre le risque qu'il y ait d'autres cas de malformation dans les populations à venir. C'est juste...
Suffisamment pour passer le seuil d'alerte. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire que on est vraiment sur
un cynisme,
qui est juste totalement inacceptable et totalement scandaleux et sur lequel les rares justifications de coupes de subventions qui reposent sur quelques courriers administratifs qui ont été égarés entre les CHU de Lyon et le Remera et la région, par exemple, sont évidemment totalement navrants par rapport à l'enjeu de la situation dont on est en train de parler.
On va rester dans l'écologie, Corinne Morel-Darleux, puisqu'il y a aussi le rapport développement durable, hein,
Oui.
Et ben, d'un sujet à l'autre, après le glyphosate.
Voilà, bah oui, parce que quand même sur ces questions de santé, d'environnement, etc., ça fait partie des choses sur lesquelles la région est censée intervenir. Et donc tous les ans, la région doit nous présenter deux rapports différents qui doivent être présentés à l'Assemblée régionale avant le nouveau vote du budget qui généralement a lieu en décembre. C'est le rapport d'activité et le rapport développement durable, c'est des obligations légales. Et donc l'année dernière, on avait eu ces deux rapports, on avait eu un rapport développement durable d'une quarantaine de pages, assez détaillé. Et puis cette année, nouveauté, les deux ont été fondus en un seul rapport, ce qui est de fait permis par la loi. Et donc on a aujourd'hui un rapport d'activité et du développement durable de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sauf que du coup, la partie développement durable s'est métamorphosée en quelques petits encadrés au liseré vert dans le rapport d'activité. Et donc, entre une page de satisfecit sur le financement d'une nouvelle autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, on a un petit encadré qui nous dit que la région lutte contre la pollution de l'air. On a une page sur l'enneigement artificiel et l'équipement en canon à neige dans les Alpes. Et à côté de ça, on a un petit encadré vert sur l'éducation à l'environnement.
Ça pareil s'appelle du greenwash, non ?
Pareil sur le plan chasse. Enfin, voilà, je veux dire, c'est-à-dire que du coup, on a une espèce de catalogue à l'après-vert avec tout et son contraire, où ça se contredit d'une page à l'autre et sans aucune cohérence, qui est évidemment... Là aussi, totalement consternant parce que on a l'impression de pas du tout progresser et que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième région de France, qui est quand même une des premières collectivités qui pourrait s'emparer des leviers dont elle dispose pour montrer qu'elle a pris conscience de l'enjeu du dérèglement climatique, est totalement à la traîne, totalement hors sol par rapport à ces sujets. Et c'est vrai qu'en plus, ce rapport nous a été présenté trois jours après le nouveau rapport du GIEC qui, une nouvelle fois, lance l'alerte sur le fait que, concrètement, ce fameux seuil du plus 1,5 degré sera très difficile à atteindre. En réalité, il est impossible aujourd'hui à atteindre parce que ça nécessiterait un changement de politique tellement massif que quand on voit un rapport d'activité et de développement durable comme celui-là, on se dit qu'il va falloir aller sauver chaque dixième de degré et que c'est pas juste le plus 1,5 qui malheureusement est mal parti, mais ce sera aussi le 1,6, le 1,7, le 1,8, le 1,9, etc., etc.
C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de débat sur l'écologie d'une manière générale. À chaque fois qu'on en parle hein, dans le cadre de cet entretien, c'est toujours à la suite d'un sujet. Bon, voilà, les canons à neige, on essaie d'en placer une petite couche, etc. C'est jamais abordé comme un grand thème. Voilà, on va à la hauteur de l'enjeu, je voudrais dire, qu'il faudrait avoir maintenant.
Non, c'est-à-dire que... Bon, le débat...
Je parlais de greenwash, ça fait cet effet-là, quoi. On met un petit peu de vert par là.
Le débat, il existe, ne serait-ce que parce que nous, on le porte quasiment, de manière systématique. Donc le débat, il existe. La difficulté qu'on a, c'est que c'est pas que la région fait rien pour l'environnement. La région fait des choses, mais les petites choses qu'elle fait, d'abord, sont pas du tout à la hauteur de l'urgence. Et de l'ampleur du saut à réaliser, d'une part, et que d'autre part, les petits pas qui sont faits sont quasi systématiquement démentis par des reculs terribles. C'est-à-dire que la région se vante de faire beaucoup pour les parcs naturels régionaux, par exemple, et elle fait des choses, bien sûr, sauf qu'à côté de ça, elle a purement et simplement annulé la décision de création d'un nouveau parc naturel régional dans l'Allier. Donc en fait, chaque petit pas de fait s'accompagne de trois pas en arrière, ou dix pas, ou mille pas en arrière. Ouais. Donc au final, on n'avance pas. Alors, peut-être, là, on commence à avoir des petits signes qui indiquent que des choses pourraient changer, notamment parce qu'on a un certain nombre aujourd'hui d'acteurs économiques et de professionnels qui commencent à tirer la sonnette d'alarme aussi. Tout simplement parce que ça commence à nuire à l'économie locale. C'est le cas par exemple des viticulteurs. En commission agriculture, on a reçu le président du comité vin d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui rassemble tous les viticulteurs. Donc c'est quand même, voilà, c'est un point économique important dans la région. Et ce qu'il nous a dit pendant l'audition, c'est concrètement de dire, écoutez, voilà, nous, jusqu'ici, les vignes, c'est parce qu'il y a le plus besoin d'eau, donc jusqu'ici, on n'était pas très inquiets, on ne s'en rendait pas trop compte, mais là, il faut qu'on vous dise, là, la sécheresse, ça ne va plus. On est surpris, et il va falloir nous aider, il faut faire quelque chose. Et il est venu lui-même lancer cette alerte auprès de la région. Sauf que le problème, c'est que au lieu d'avoir tout d'un coup des élus autour de la table qui se réveillent et qui se disent « mince oui, là vraiment il faut qu'on fasse quelque chose » et que donc on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on commence à réfléchir à des mesures d'adaptation par rapport à des cultures moins gourmandes en eau, qui s'adaptent mieux aux aléas climatiques, etc. Au lieu de prendre ces mesures qui soient à la hauteur, la solution c'est qu'on va aller, financer des dispositifs anti-grêle. Alors, ok, ça répond à des mesures d'urgence, mais ça ne change pas le problème. Et en plus, dans les mesures anti-grêle, vous avez des choses qui sont à la limite de la géo-ingénierie qui risquent d'être des remèdes qui aggravent le mal. Parce que quand on disperse des produits type iodure d'argent...
En tirant au mortier dans les nuages.
Et qu'on ne sait pas aujourd'hui de manière précise quelle en est la toxicité, qu'on sait que c'est des choses qui vont là aussi retomber et s'accumuler dans les sols. En fait, une fois de plus, on ne prend pas les choses dans le bon ordre. Et au lieu d'agir sur les racines, la région se contente d'agir à la marge et elle ne fait que de la mesure d'urgence. Des aides exceptionnelles sécheresse, des filets anti-grêle, ce qu'il faut faire, hein, je ne dis pas le contraire, mais si les mesures d'urgence ne sont pas couplées avec des mesures de changement profond, et elles vont tout simplement se multiplier au fur et à mesure que les aléas climatiques vont se multiplier et elles ne protègent en rien les agriculteurs sur le long terme.
Un sujet encore lié, vous vouliez nous dire à quel point l'ONF était mal.
Oui, parce qu'effectivement c'est lié. Hein, dans le rapport du GIEC, y a notamment toute une partie importante sur le rôle des forêts comme puits de carbone. Et donc l'importance de préserver ces forêts, de les gérer comme un bien commun. Et puis de les développer, de planter des arbres, enfin voilà, de lutter contre la déforestation, d'avoir une gestion plus que raisonnée et durable de ces forêts. Et il se trouve que la même semaine sortie du rapport du GIEC, nous avons appris que l'ONF, qui est donc normalement en charge de la gestion publique de ces forêts comme bien commun, même si la direction n'a pas toujours visiblement cet objectif en tête, qui a déjà alerté depuis de nombreuses années sur les manques de moyens, les manques d'effectifs, qui a lancé une grande marche pour la forêt en ce moment même, qui est partie d'ailleurs de Valence et qui se poursuit dans la région, et en pleine marche d'alerte sur les manques de moyens de l'ONF, est tombée une décision de la direction et du gouvernement de supprimer 1500 postes dans les années qui viennent à l'ONF. Donc autant dire que dans ces conditions-là, on peut considérer que c'est la mort de la gestion publique des forêts. Et donc, évidemment, une nouvelle catastrophe pour la suite, alors qu'on sait que c'est un levier important. Et c'est là aussi totalement hallucinant qu'il n'y ait pas, au contraire, un grand plan forêt lancé au niveau gouvernemental, avec de nouveaux moyens et de nouvelles missions confiées à l'ONF pour préserver ces forêts et en faire un bien public. Et aujourd'hui, on assiste à tout l'inverse, un peu sur ce qu'on voit à l'œuvre au niveau de la SNCF, c'est-à-dire à la fois d'un côté des cheminots ou des forestiers qui aiment leur métier, qui aiment leur outil de travail et qui ont cette mission de service public d'intérêt général chevillée au corps. Et puis des directions de la SNCF ou de l'ONF qui vont dans le sens contraire avec la complicité du gouvernement et de l'Union européenne. Enfin, voilà, on est vraiment de plus en plus sur une dichotomie entre des acteurs de terrain qui aimeraient faire ce qu'il y a à faire et puis des consignes et des budgets qui sont orientés sur d'autres projets à rebours de l'histoire, en fait.
Vous êtes élu régional, Corinne Morel-Darleux, vous nous alertez, mais la collectivité, elle, peut faire quelque chose. Enfin, on sait, par exemple, ici, dans notre département, le département, c'est un autre domaine, mais est propriétaire d'un certain nombre de forêts, enfin, presque de la plupart des pourcentages, j'allais dire, de forêts sont finalement à une collectivité territoriale. La région en possède-t-elle ? Est-ce que il n'y a pas, comme d'habitude, hein, vu qu'il y a l'État se désengage, une reprise qui doit être faite par le territoire ou un combat mené par le territoire complet ?
Alors, il y a tout à fait des leviers à la région. D'ailleurs, il y a une politique forêt à la région, avec, par exemple, des aides pour justement lutter contre cette parcellisation de la forêt entre plein de propriétaires privés, de petits propriétaires privés. Donc il y a des aides pour que ces petits propriétaires privés se rassemblent et fassent des plans de gestion communs, collectifs de la forêt. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Et puis la région pourrait aussi se porter acquéreur. À un moment donné, justement, l'ONF, pour faire face à ce manque de moyens, avait décidé de mettre en vente un certain nombre de parcelles forestières. Et moi, j'avais proposé que la région se porte acquéreur et commence à racheter comme ça de plus en plus pour qu'on ait des forêts régionales qui puissent être gérées par la collectivité publique. De fait, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a surtout des dispositifs en faveur de la filière bois, mais au sens économique du terme, c'est-à-dire pour aider les petites menuiseries, pour aider la filière économique. Mais il y a très peu de choses qui sont faites pour laisser les arbres debout dans la forêt qui permettent justement de capter du carbone. Donc il y a des choses qui évoluent, par exemple sur cette utilisation du bois une fois qu'il est coupé, d'aller plutôt vers du bois construction plutôt que vers du bois énergie, c'est-à-dire que concrètement du bois que vous utilisez sur de l'éco-construction a plus d'utilité, y compris climatique, que si vous le brûlez, puisque quand vous le brûlez, bah, il libère en fait le carbone qui a été stocké. Donc il y a des choses qu'on arrive à faire évoluer comme ça, mais aujourd'hui il n'y a pas en tout cas de plan d'acquisition publique de forêts privées ou de forêts qui sont mises en vente et qui pourraient tomber dans le domaine privé. Après, il y a aussi des choses qui peuvent se faire au niveau citoyen. En ce moment, par exemple, dans le Diwa, il y a un groupement forestier agricole qui vient de se monter pour préserver justement un bout de forêt du Diwa et faire en sorte que ce soit un lieu qui puisse rester non exploité, naturel, sauvage, etc. Donc il y a la possibilité de monter ces groupements forestiers agricoles aussi du côté des citoyens.
Une autre alerte, la mission locale est menacée.
Alors, c'est des discussions qui sont en cours. Il y a un projet du gouvernement, moi, très honnêtement, qui m'avait totalement échappé et dont j'ai pris conscience justement parce que on en a discuté pendant cette session. Parce que en fait tout le monde est un peu vent debout contre ce projet gouvernemental.
Ouais. Tout bord confondu.
Voilà, qui consiste à dire en gros qu'il faut que les missions locales désormais soient rattachées à un pôle emploi. Et donc évidemment, si on prend le cas de Die par exemple, ça veut dire que concrètement, comme on nous a supprimé le pôle emploi et qu'il est désormais à Cray, ça laisse à penser que si cette loi passait, la mission locale de Die devrait déménager à Cray. C'est-à-dire que concrètement, en fait, petit à petit, on se fait de plus en plus dépecer de tous les outils qu'on a encore un petit peu de mission de service public de proximité. Alors, il semblerait qu'il y ait en discussion des possibilités, alors je ne sais pas si elles seront dérogatoires, mais en tout cas d'avoir du coup, à l'inverse, une espèce d'annexe de pôle emploi au niveau de la mission locale. ce qui permettrait évidemment à Di...
Le retour de Pôle emploi à Di, quoi, plutôt.
Bah, c'est ça, ouais. Peut-être en partie, mais je vous avoue que pour l'instant, ce n'est pas très clair comme dispositif, mais en tout cas de conserver la mission locale. Donc en tout cas, pour l'instant, vu la confusion qui règne autour de ces sujets, il y a là aussi, une fois de plus, une mobilisation à avoir. Il y a une pétition qui a été lancée pour sauvegarder ces missions locales. On sait qu'à Di, elle joue un rôle important et que bah, on a besoin de la conserver. Donc, en attendant d'en savoir plus, j'invite déjà tous les auditeurs à aller signer cette pétition.
Et là, il y a un accord du coup au niveau régional. Qu'est-ce que vous allez prendre un vœu?
Alors, cet épisode n'était pas très glorieux une fois de plus pour l'Assemblée, parce qu'en fait, il y a eu un espèce de vœu commun, mais d'une indigence totale, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dépose un vœu, mais c'est pareil pour les rapports et pour les amendements, etc., et en fait, vous avez toujours une partie, ce qu'on appelle le maigre, c'est-à-dire toute une partie littéraire, on va dire, avec où on explique pourquoi on dépose cet amendement, pourquoi on propose ce vœu, etc. Et puis une partie qu'on appelle le gras, c'est-à-dire qui est écrite en gras. Et c'est cette partie-là, en fait, en réalité, qu'on vote. Uniquement cette partie-là. Et donc c'est uniquement cette partie-là, dans le cas d'un vœu, qui est transmise au gouvernement et qui engage la région. Et là, par exemple, sur ce vœu commun, la partie maigre était très bien, hein, très offensive, et pointait bien, effectivement, tous les problèmes que ça posait. Mais la partie gras, celle donc qu'on vote et qui engage la région, était très, je sais pas comment dire, quoi, très légère, à demander au gouvernement de préciser ses intentions et selon quelles modalités, alors que c'est pas ça le fond. Enfin, le fond, c'est pas de dire quelles sont vos intentions et comment ça va se passer. Le fond, c'est de dire, mais non, en fait, on est juste opposé à ce projet qui va supprimer des missions locales dans des villages et des petites villes où il y en a besoin, quoi. Et donc c'est très étonnant que, une fois de plus, cette espèce de diplomatie institutionnelle et technocratique empêche de dire clairement les choses. Donc là aussi, on est monté au créneau pour muscler un petit peu ce vœu, ce gras. Et donc il y a toujours, toujours ce côté un peu diplomatique qui empêche de dire les choses clairement. Et dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est un peu surprenant parce qu'en général, on ne peut pas dire qu'il ait l'habitude de mâcher ses mots. Ouais.
On pourrait le taxer de mollesse, attention. Allez, on passe à des points différents pour terminer cette émission. D'autres choses auxquelles vous voulez qu'on prête attention. Et notamment le procès des sept de Briançon. Alors là, nous aussi, on va parler exil.
Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde se souvient effectivement de ce qui s'est passé au mois d'avril dernier. C'est la période où il y a eu beaucoup de passages dans des conditions extrêmement difficiles, en plein hiver, du col de l'Échelle, du côté de Montgenèvre et de Briançon, de personnes migrantes qui franchissaient du coup la frontière entre l'Italie et la France, avec toute une chaîne de solidarité qui s'était mise en place, notamment de la part des secours en montagne, puisqu'il y avait une surveillance policière extrêmement forte et extrêmement dangereuse, puisqu'il y avait une véritable traque, hein, je crois qu'on peut le dire, et qui poussait du coup les réfugiés à emprunter des passages en montagne, difficiles, en altitude, en plein hiver, avec des cas d'accidents, d'engelures, de déshydratation, pas du tout équipés même, c'est-à-dire que certains se sont retrouvés, c'est imaginer de faire une randonnée en montagne en plein hiver dans la neige,
en claquettes,
en sandales, sans gants, sans équipement. Donc un bilan humainement absolument dramatique, et avec toute une chaîne de solidarité, donc de secours en montagne, de guides de haute montagne, et puis d'accueil aussi, notamment dans la vallée de la Clarée et du côté de Briançon. Tout bord confondu, là aussi, la chaîne de solidarité a vraiment été très large dans la vallée de la Clarée. Et puis en réaction à toute cette solidarité, une descente du groupuscule fasciste Génération Identitaire pour aller faire de l'intimidation, de la répression et ajouter de la peine à la peine.
Et casser, hein, ils ont détruit aussi des refuges.
Ils ont loué un hélicoptère, ouais. Ils se sont fait de la publicité. Ça n'a donné lieu à aucune arrestation, aucune condamnation. Et par contre, des citoyens, des militants, mais pas seulement, juste des êtres humains solidaires, ont voulu manifester suite à ça leur solidarité avec les exilés et condamner cette action d'incitation à la haine de la part de Génération Identitaire. Et là, par contre, il y a eu des arrestations et aujourd'hui, on a 7 personnes qui sont sous le coup d'un délit de solidarité, d'une certaine manière, qui risquent 10 ans de prison. C'est-à-dire que 10 ans de prison, c'est normalement les peines pour crimes en bande organisée, quoi, pour vous donner une idée. Et donc, ils passent en jugement les 7, le 8 novembre, au tribunal de Gap. Et donc, il y a un appel à signer une pétition qui a été initiée par la CIMAD et par un certain nombre d'organisations et d'associations. Et à se rassembler en soutien à ces 7 inculpés, donc le 8 novembre à partir de 8h30 devant le tribunal de Gap. Donc là aussi c'est un domaine sur lequel on n'a pas le droit de lâcher, parce qu'il s'agit d'un principe d'humanité le plus élémentaire qui soit, et qui là aussi doit transcender... Les clivages qu'on peut avoir sur d'autres sujets. Donc j'espère que la mobilisation sera la plus large possible et qu'ils recevront beaucoup de messages de soutien et que le tribunal entendra ces arguments de légitimité de ce devoir de solidarité qu'on a toutes et tous aujourd'hui.
Et au-delà de ça, le tribunal pourrait au moins ne pas faire deux poids, deux mesures. Hein. Je veux dire, s'il avait à fond envie de condamner les gens, il peut condamner aussi le groupuscule fasciste.
Absolument.
Petit voyage à Poitiers. Alors.
Oui, alors pour essayer de,
ah, mais c'est parce que de remettre un petit peu... D'habitude, les voyages, ils sont très loin, alors là, Poitiers...
C'est vrai que, alors, j'essaye de réduire un peu mon empreinte carbone.
Oui, on en avait parlé. Ouais.
Voilà, donc j'essaye de...
Ah, vous y allez en train.
De diminuer mes déplacements à l'étranger, lointain, en avion, etc. Et puis là, c'est aussi pour remettre un petit peu de poésie et de culture dans tout ça, parce que les nouvelles sont quand même pas forcément toutes très, très réjouissantes. Mais là, pour le coup, celle-ci l'est sur un tout autre registre, puisque je dis souvent que... On a besoin d'inspirer la politique aussi avec de la poésie, de l'art, de la culture, et que ce sont des disciplines qui peuvent nous aider à avoir, à décrypter le monde qui nous entoure et à préparer le monde d'après. Et je fais beaucoup recours, notamment dans mes interventions, à la science-fiction, à la littérature, pour essayer de se raccrocher aussi à d'autres disciplines. Et je crois de plus en plus qu'on a besoin de ces ponts-là. Et il se trouve que là, j'ai l'occasion de le faire et j'en suis très heureuse, puisque j'ai été invitée à donner une conférence sur les questions d'effondrement et de dérèglement climatique dans le cadre d'une exposition d'art contemporain qui a lieu à Poitiers, qui s'appelle « Ère glaciaire », qui est proposée par deux artistes, Benoît Pierre et Franck Dubois. Ils m'ont invité à parler justement de collapsologie, d'effondrement et de comment préparer le monde d'après.
Et comment et pourquoi ? Parce qu'ils ont eu connaissance notamment de travaux. Hein. Quand on parle d'effondrement, c'est donc les glissements de terrain en montagne suite au gel des gels. Hein.
Voilà, notamment.
Et donc ils ont eu connaissance de ça ?
Alors en fait, on a eu connaissance mutuellement, puisque moi je connais bien le travail de Franck Dubois notamment. Et donc j'avais suivi le montage de cette exposition qui tourne, hein, et que j'avais vu notamment à Évreux. Et puis de leur côté, comme ils sont très mobilisés aujourd'hui sur ces enjeux-là, ils ont pas mal furté, ils travaillent dans le cadre de cette expo, ils ont travaillé avec un historien de l'art, avec un philosophe. Ils avaient également remis dans leur catalogue l'interview de Denis Meadows par Laure Noilat, justement, sur ces questions d'effondrement. Donc, ils sont très au courant des débats, justement, politiques, scientifiques, philosophiques qui émergent sur ces questions-là. Et donc, voilà, on s'est trouvé de part et d'autre assez content de cette coopération, et j'espère que ça en inaugure d'autres, parce que il faut aussi que la politique sorte des rangs militants et que l'art contemporain lui aussi sorte de ces cercles de galeries d'art. Et là en plus c'est intéressant parce que ça se passe dans deux lieux, au lieu multiple et à Rur Art, qui sont des lieux qui font aussi vivre l'art en milieu rural. Qui travaille en lien avec les lycées agricoles du coin, enfin voilà, avec tout un côté d'art populaire, accessible, de pédagogie, et donc voilà, tout ça fait un joli ensemble, et ce sera mardi soir à Poitiers.
Mardi 16, bon bah voilà, une conférence de Corinne Morel d'Arleux sur l'art, dans l'art en tout cas. Merci pour ce compte-rendu dans le cadre de cette dernière plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 11 et 12 octobre dernier. On se voit quand, la prochaine
Alors,
fois
bah là, il va y avoir tout un petit temps où il va à nouveau plus se passer grand-chose de ce côté-là, puisque la prochaine assemblée plénière, ce sera les 19 et 20 décembre.
Ouais, bon, pour le budget donc.
Donc on se retrouve pour Noël.
À bientôt.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
Interview du jour.
L'interview du jour.